France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troyano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux villes face aux risques climatiques après Los Angeles et Athènes face aux incendies dont nous parlions hier, les inondations, ici en France, en Ille-et-Vilaine, après la région de Valence en Espagne au mois d'octobre.
C'était affreux. À 18h30, j'ai reçu un coup de téléphone de ma fille. « Maman, où est papa ?» Et elle m'a dit qu'il fallait qu'il se dépêche de rentrer, que la rivière avait débordé. On s'en serait jamais douté parce qu'il n'avait jamais plu ici. Il n'avait jamais plu une goutte.
C'est une catastrophe climatique. Bien sûr qu'elle n'aurait pas pu être évitée, mais sa magnitude et ses conséquences, elle, si. Et c'est sûr que c'est arrivé à cause de nos politiciens et de leurs actions.
S'il fallait en tirer une leçon, ce serait que les populations doivent être alertées plus tôt. Plusieurs heures à l'avance, qu'on ait le temps de prendre nos mégaphones pour inviter les gens à se réfugier dans les étages supérieurs. On n'a reçu aucune alerte, juste un petit message signalant que la rivière débordait, c'est tout.
Des cours d'eau qui s'emballent, qui débordent et progressent nonchalamment dans les villes, transforment les voitures en bateaux chancelants et se referment sur des cadavres. 222 morts en octobre dans la région de Valence en Espagne, à Redon en Ille-et-Vilaine, l'eau a épargné les humains, mais beaucoup abîmé sur son passage, comme l'avait fait il y a quelques mois la dépression Boris en Europe de l'Est ou les pluies diluviennes de 2021 en Belgique ou en Allemagne où furent englouties des milliers de maisons. Autant les forêts d'Europe sont capables d'absorber les déluges avec cette odeur de feuilles pourries et de sol détrempé, odeur d'une terre vivante qui s'évapore à l'air libre. Autant les villes et leurs périphéries sont bien en peine d'ingérer ce surplus d'eau, bétonnée, artificialisée, bref totalement imperméable. L'eau ne peut entrer nulle part et ruisselle dans les rivières avoisinantes qui enflent jusqu'à saturation. Dans des villes où les canalisations par ailleurs sont aujourd'hui vétustes ou sous-dimensionnées, où l'eau de pluie finit par se mélanger aux invisibles Venises de merde sur lesquelles sont bâtis nos cabinets de toilettes, nos chambres à coucher, nos salles de bal et nos parlements. Comme l'écrit Milan Kundera, les inondations provoquent des boues toxiques qui contaminent les secours et les bonnes volontés. Comment repenser l'ingénierie urbaine pour faire face à ces pluies torrentielles favorisées par le changement climatique? Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Mathilde Gralpois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'université en aménagement, urbanisme, département d'aménagement, environnement de l'école polytechnique et vous êtes à l'université de Tours. Vous êtes d'ailleurs en duplex depuis ICI Tours. C'est ainsi désormais que s'appelle France Bleu Touraine. ICI Touraine, pardon. Nous sommes également depuis France Bleu, depuis ICI Hérault avec Freddy Vinet. Bonjour. Et bienvenue à vous, vous êtes professeur de géographie à l'université de Montpellier, à Paul Valéry, directeur du master gestion des catastrophes et des risques naturels. Frédéric Vinet, vous connaissez particulièrement ce qui s'est passé dans la région de Valence. On va avoir le temps de revenir sur tous les mécanismes dont on est en train de comprendre plus ou moins la suite, tout ce qui s'est passé chronologiquement pour arriver à ces inondations catastrophiques et dramatiques. D'abord, dans quel état aujourd'hui sont les rues de Paiporta ou les autres localités de cette région de Valence, 3 mois après les inondations?
Ah ben, là, actuellement, on est dans la réhabilitation, on n'est même pas encore dans la reconstruction, parce qu'il faut, que les choses fonctionnent. Donc il y a deux choses, il y a les infrastructures, donc la remise en état des infrastructures prend du temps, il faut refaire des ponts, il faut refaire les routes, il faut repomper, il faut dépolluer les endroits. Parce que, notamment lorsqu'on voit la télévision, il y a des choses qu'on n'a pas, c'est en particulier l'odeur. Et quand il y a des inondations, l'odeur, elle est terrible, hein, parce qu'il y a des produits toxiques, il y a des moisissures après, il y a des produits pétroliers et du gasoil qui se sont répandus. Donc cette odeur, c'est quelque chose de très, très prégnant et qui reste souvent assez longtemps. Et puis après, il y a la reconstruction au quotidien aussi pour les personnes elles-mêmes. Et là, il y a un sentiment d'abandon de la part, de la part des personnes parce que les aides n'arrivent pas suffisamment vite, notamment pour racheter une voiture. Hein. On est indemnisé pour une voiture à hauteur de 2-3 000 euros, mais ça ne suffit pas pour en racheter une nouvelle. Et puis, par exemple, il y a des problèmes sur la réhabilitation des ascenseurs dans les immeubles. Il y a beaucoup d'immeubles autour de Valence, beaucoup d'immeubles en Espagne. Et pour la réhabilitation des ascenseurs, parce que souvent les mécanismes des ascenseurs étaient au sous-sol, donc ils ont été complètement inondés, il faut tout refaire. Ouais. Et ça, évidemment, ça prend beaucoup de temps parce que on n'a pas le matériel disponible, on n'a pas les artisans disponibles tout de suite.
Le peu qu'on a, ça peut être quelques radiateurs, par exemple, qu'on fait tourner. Les témoignages racontent ces habitants qui font tourner leurs radiateurs
pour sécher,
sécher l'humidité, sécher les murs. Les écoles sinistrées ont rouvert. Est-ce qu'on sait si les collégiens, lycéens font toujours leurs cours dans des bâtiments qui ont été épargnés ou s'ils ont pu rentrer?
Alors, il y en a certaines qui ont bénéficié de logements temporaires, c'est-à-dire de modules qui permettent de faire des classes temporairement. Et globalement, moi, ce que j'avais lu, c'était qu'il y avait à peu près 90% des écoles et collèges et lycées qui avaient repris.
Donc, certains cours ont repris avec des enfants, des collégiens ou des lycéens qui disent ces images d'horreur qui leur reviennent régulièrement, comme l'un d'entre eux disait à Isabelle Labéry pour France Info, un mois après la catastrophe.
Je me sens mieux que les premiers jours, beaucoup mieux. Mais pour moi, ça ressemble encore à un film de zombies. Quand je vois toutes ces voitures cassées et abandonnées, j'ai l'impression que je vais voir des zombies en sortir. Et ça fait vraiment peur.
Ça fait un mois qu'ils nous interdisent de sortir les déchets dans la rue parce que c'est l'armée qui doit le faire. Mais l'armée ne vient pas. Un mois comme ça.
On a des rats qui viennent jusque devant la porte d'entrée. On nous laisse seuls.
C'est une honte.
On nous laisse seuls, disent ces habitants de Catarora que Isabelle Labéry a rencontré pour nettoyer les parkings, pour nettoyer les sous-sols. Certains font appel à des entreprises privées parce que l'armée ne vient pas comme ils disent. L'armée, pourquoi? Peut-être, Freddy Vinet, vous disiez que vous parliez de cette odeur, elles sont souvent pollués, contaminés par l'huile, l'essence des voitures, il faut se protéger.
Oui, bien sûr. Et puis, d'autant plus que l'hiver aussi a été très, très humide. Donc, ça n'a pas permis le séchage et le nettoyage de tous les lieux. Donc, avec les beaux jours, ça devrait normalement s'améliorer, mais il faut aussi tout un... Parce que la topographie autour de Valence est relativement plane. Donc, tous les secteurs qui sont un peu bas, eh bien, il faut tout pomper. L'eau ne s'évacue pas spontanément. Donc, tous les sous-sols, les souterrains, les parkings souterrains, etc., il faut pomper.
Alors, ce qui a séché un peu trop vite, un peu plus vite que prévu, en tout cas, c'est la boue que les milliers de volontaires qui ont afflué de toute l'Espagne, avec plein de bonne volonté, ont jeté dans les égouts. Ils sont venus pour vider la boue dans les maisons et ils en ont jeté une partie dans les égouts. La boue a séché et ça rend plus compliqué les opérations aujourd'hui à la fois de sauvetage et de réhabilitation de tout ça. Alors, Mathilde Gralpois, que ce soit à Redon en Ille-et-Vilaine, à Valence en Espagne ou dans d'autres villes très sérieuses, inondées récemment, comme vous avez pu les étudier, notamment en Europe de l'Est. Est-ce que dans toutes ces villes existent des plans précis où que ce soit les élus, les urbanistes, les ingénieurs savent précisément quels sont les points d'accumulation de l'eau quand il pleut, par où cette eau peut s'évacuer? Est-ce que cette cartographie existe partout, Mathilde Gralpois?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même un cadre pour les pays européens, pour les États membres, en matière de prévention des inondations, qui date de 2007 et qu'on appelle la directive inondation. Donc, à donner un laps de temps de 5-6 ans pour que l'ensemble des pays membres puissent disposer d'abord d'une cartographie de connaissance de l'aléa, donc des phénomènes hydrométéorologiques, par exemple, et de faire aussi une recension de l'ensemble des enjeux qui se trouvent dans les territoires, et plus particulièrement en identifiant des territoires dits à risque important et sans surprise, ce sont des milieux urbains, puisque comme on le voit très bien dans les questions et dans l'intervention de Freddy Vinet, les villes et leurs périphéries concentrent la majorité, l'essentiel des infrastructures, des réseaux, de l'habitation, des commerces, des entreprises, des industries. Et donc, l'ensemble des pays membres sont tenus de disposer de cette cartographie de connaissance de l'aléa, mais surtout du risque. Après, c'est une cartographie qui, en grande partie, repose sur l'idée d'inondation par débordement de cours d'eau. Mmh. Et ça, que ce soit pour la France, notamment, cette cartographie, elle est assez bien connue. Quand bien même aujourd'hui, on peut avoir le débat sur l'avenir de ces modèles hydrauliques dans le cadre du réchauffement climatique. Mais ce qu'on n'a pas, ou que finalement, et qui est un point un peu vide encore aujourd'hui, c'est effectivement ce que vous appelez le ruissellement, c'est-à-dire les précipitations qui sont, ça on sait le dire avec les projections climatiques, de plus en plus intenses, extrêmes, potentiellement moins prévisibles, et qui vont inonder par ruissellement, donc par accumulation d'eau, dans des points qui peuvent être parfois assez éloignés d'un cours d'eau. Donc la logique est pas la même. Et cette cartographie-là, aujourd'hui, on a des parties prenantes économiques, par exemple dans le monde de l'assurance, qui constituent ces cartes de ruissellement, mais elles ne sont pas véritablement
publiques,
reconnues par l'État, par exemple, ni publiques, oui.
D'accord, donc ce sont quand même des cartographies, on essaye quand même de voir, comme vous le disiez, à la fois où un cours d'eau pourrait déborder, éventuellement où peut s'accumuler l'eau, mais ça c'est un petit peu plus compliqué à définir, ce ruissellement dont vous parliez, ce phénomène-là. Alors, pour prendre l'exemple à nouveau précis de Valence, Freddy Vinet, est-ce que des recherches a posteriori ont déjà permis de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui a fait déborder les cours d'eau, en mesurant précisément les quantités tombées, l'accélération du débit des rivières, la capacité de retenue des barrages, etc. Est-ce que ces événements-là ont été modélisés, comme on dit ?
Alors, et les modélisations sont en cours. Hein. Vous vous doutez bien que les hydrologues espagnols, mais pas seulement, sont en train de refaire des calculs par rapport aux précipitations qui sont tombées donc sur le bassin. Alors, sur le bassin du Turia, il y avait eu les inondations de 1982, de 1957, mais là, en fait, le cœur des précipitations n'était pas sur le bassin du Turia, mais plus au sud, sur des petits bassins versants.
Et parfois, il suffit que les pluies ne tombent pas exactement au même endroit pour que l'excès d'eau ne concerne pas les mêmes bassins versants, donc pas les mêmes villes.
Ça se joue à quelques kilomètres. Mmh. Ça se joue à quelques kilomètres. Donc, les petits bassins versants qui sont au sud de Valence, eux, ils sont moins bien connus parce qu'ils n'ont pas subi les grandes inondations des années 80 et des années 50. Donc, on a moins de connaissances. Et puis, les totaux pluviométriques, on est ponctuellement arrivé quand même à 700 mm en 48 heures. Donc, 700 mm, même ponctuellement en 48 heures, ce sont quand même des précipitations qui sont quand même, je dirais pas exceptionnelles, parce que j'aime pas ce mot exceptionnel, mais des précipitations qui sont quand même très intenses.
Mmh. Pourquoi vous n'aimez pas le mot d'exceptionnel ? Parce qu'en fait, on ne sait pas si avant que les statistiques n'existent, cette quantité-là soit déjà tombée dans le passé, dans un passé même récent.
Ben parce, j'aime pas le mot exceptionnel parce que ça sous-entend que c'est une exception. Ouais. Et c'est pas une exception. Ça fait partie du fonctionnement du climat méditerranéen d'avoir des précipitations intenses sur les collines juste à l'arrière du littoral, vers 200-400 mètres d'altitude. C'est fréquent à l'échelle du bassin méditerranéen. C'est fréquent. Souvenons-nous en 2023 des inondations de Derna en Libye qui ont fait 10 000 morts. Hein? Donc, si on prend les événements qu'on appelle exceptionnels, mais à l'échelle du bassin méditerranéen, on en a pratiquement un tous les ans ou tous les deux ans.
Donc ça serait comme dire historique, ça n'aurait pas de sens. Ces précipitations, elles ont été très très importantes. Donc comment ont agi d'abord les barrages de la région, Freddy Vinet ?
Alors, les barrages, ils sont plutôt sur les bassins dont je vous ai parlé au début, plutôt sur le Júcar et sur le Turia, qui sont au nord, qui sont des grands bassins. Et ces barrages, ils ont bien fonctionné, mais pour ces cours d'eau-là, ils ont relativement bien fonctionné. Mais le pic pluviométrique, le cœur pluviométrique, il n'était pas sur ces grands bassins Touria et Roucar, qui bénéficient des barrages qui servent aussi à l'irrigation, à stocker de l'eau pour l'irrigation, et là, qui ont relativement bien fonctionné. Mais, je vous dis, sur les petits bassins versants au sud de l'agglomération de Valence, il n'y avait pas de barrages suffisamment importants pour absorber l'eau, et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable d'ailleurs.
Le barrage de Forata par exemple, qui était quasiment à sec d'ailleurs avant les grosses pluies à cause de la sécheresse prolongée dans la région pendant plusieurs mois, il a retenu près de 30 hectomètres cubes de pluie, c'est-à-dire le maximum de ce qu'il pouvait contenir. Est-ce qu'il aurait pu rompre, ou c'est de l'ordre de l'inenvisageable ?
Ah, ben, il aurait pu évidemment rompre. Les quantités retenues par rapport à ce qui est tombé sont pas énormes. Mais les ruptures de barrages dans le monde, c'est au moins un par an. Hein, donc, pour diverses raisons, hein, pour des raisons de surverse, hein, c'est-à-dire qu'il pleut plus et le barrage déborde, mais pour des raisons aussi de malveillance, de terrorisme, de guerre en Ukraine. On a vu qu'il y a des zones qui ont été inondées en Ukraine suite à la destruction d'un barrage par les Russes. Donc les barrages, il faut être assez prudent aussi sur les barrages.
Ouais. Mathilde Gralpois, dans les cas que vous avez étudiés, je pense par exemple à la Belgique, l'Allemagne ou des villes qui ont été très fortement inondées en 2021 ou plus récemment lors de la tempête Boris, est-ce qu'à chaque fois c'est un peu le même scénario qui se passe, c'est-à-dire des barrages qui n'arrivent plus à retenir des cours d'eau?
Alors, ce que je vais avoir envie de dire, en fait, c'est que la logique des grandes infrastructures comme les bassins de rétention, les digues, sont aujourd'hui quand même un peu mises en retrait. C'est-à-dire que même si on peut considérer qu'à l'échelle des pays européens, notamment d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est, il y a une tradition depuis le 19e siècle, ou même bien avant sur certains territoires, de construction d'infrastructures de défense, on voit qu'aujourd'hui le discours change quand même au niveau des pays européens et dans la doctrine inondation de l'Europe, au profit d'une stratégie qui serait dite multiniveau. Donc, qui encouragerait aussi, au-delà de la simple idée de défendre les territoires par des infrastructures hydrauliques, de modifier les règles d'aménagement du territoire, de faire de la gestion de crise une mission intrinsèque du développement des villes, et puis de travailler ce qu'on va appeler la mitigation, c'est-à-dire d'essayer petit à petit ou à plus grande échelle, mais pour le moment quand même petit à petit, de travailler à l'infiltration des eaux de pluie notamment. Donc l'idée même aujourd'hui qu'il puisse y avoir des barrages, des digues, est un peu remise en cause. Alors les pour et les contre sont assez diverses, hein. De fait, aujourd'hui, on a tout de même une existence de ces infrastructures qui nécessite de la maintenance, qui est extrêmement effectivement onéreux, mais qui habille aussi nos territoires. Si je pense à des territoires endigués, par exemple, on a quand même cette structure le long des fleuves qui est aussi un lieu patrimonial de promenade, de circulation, mais qui est aujourd'hui un peu pointé du doigt, notamment pour les risques de rupture, de brèche et donc de suraggravation d'un danger, comme le disait à l'instant Freddy.
Mathilde Gralpois, 224 personnes sont mortes de ces inondations à Valence. Plusieurs familles des victimes se préparent aujourd'hui à attaquer en justice les représentants des administrations publiques. Ce qui leur est reproché, est-ce que ça relève davantage du court terme, c'est-à-dire des mesures prises ou pas le jour même pour protéger la population, ou du plus long terme, de tout ce qui relève de l'inconséquence à construire dans telle ou telle zone inondable, du mauvais entretien des cours d'eau, tout ce qui est de l'ordre de la décision ou de l'indécision politique dont les administrés auraient payé le prix en octobre?
Ah bah les deux réponses vont être justes, hein, parce que dans la question de l'alerte, on entend bien ce que dit l'habitante ou l'habitant sur votre première partie d'émission, que il aurait fallu être alerté plus tôt, que les consignes de sécurité n'ont pas été relayées. Alors moi j'ai peut-être moins suivi directement l'événement que Freddy ne le connaît, mais je pense qu'il y a eu une disjonction d'informations entre l'information qui venait de de l'État espagnol et de la province. Et là, on a quand même entendu des choses sur sur des formes de désengagement des services publics à l'échelle de la province, notamment au niveau des services de sécurité et d'intervention pour le secours, qui ont manqué. L'alerte, après, effectivement, c'est une chose de la donner en son temps. Je pense que les relevés météorologiques donnaient déjà des signaux assez intenses d'une inondation ou de précipitations intenses à venir. Mais les consignes de sécurité, effectivement, aujourd'hui, elles sont pas assez relayées dans les territoires. Là aussi, l'habitant ou l'habitante dit « on aurait voulu que papa se dépêche de rentrer », alors que deux phrases plus tard, on comprend qu'il aurait peut-être fallu monter dans les étages. Donc, il y a très certainement une nécessité de remettre tout le monde autour de la table, les habitants à l'échelle des quartiers, pour comprendre comment on vit les villes de demain dans un contexte d'accélération de ces événements et de leur intensité.
Donc, concertation avec les habitants, vous avez travaillé sur ce sujet, Mathilde Grallepoix, notamment en Angleterre, on y reviendra. Freddy Vinet, sur Valence, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, ce que dit Mathilde est exact, et j'ajouterais même que y a deux choses. Il y a l'alerte, et puis comment elle est reçue dans la population. C'est-à-dire que si vous lancez plein d'alertes, mais que vous n'avez pas préparé la population auparavant, les gens ils ne sauront pas quoi faire. C'est bien beau d'envoyer des alertes, mais il faut que les gens répondent aux alertes, qu'ils sachent quoi faire, qu'ils acceptent de ne pas faire certaines choses, de ne pas prendre la voiture, de reporter un déplacement ou effectivement de monter dans les étages, etc. Et pour ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, il y a une directive européenne en 2022 qui instaure la généralisation d'une alerte, d'un système d'alerte. Alors, en France, c'est FR Alerte, qui est diffusé dans des messages automatiques de ce qu'on appelle de cell broadcast, c'est-à-dire que tous les messages d'alerte sont envoyés par les préfectures, c'est tous les opérateurs téléphoniques dans une zone donnée. Donc ce système, il commence à être implanté en France, il commence à être implanté en Espagne, il a été mis en place là à Valence, mais bon, il a pas forcément très très bien marché. Et ensuite, il faut qu'il y ait une réaction de la population. Donc, pour qu'il y ait une réaction de la population, il faut que la population, elle connaisse les gestes qui sauvent, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent, les réflexes à avoir. Et aussi, et moi, je pense que plus j'avance en âge, plus je pense que c'est important dans le métier de la prévention, que la population est une représentation du risque.
Comme
c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient en tête qu'est-ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? S'il y a des précipitations, qu'est-ce qui se passe ? Quelles routes sont bloquées ? Si la route est bloquée, qu'est-ce que je fais ? Où sont les personnes à évacuer ? Où sont les secteurs sensibles ? Où est-ce qu'on évacue ces gens, etc. Et à chaque fois, après des sinistres, notamment, ça c'était évident après Xynthia, par exemple, dans l'ouest de la France, il y avait un défaut de représentation mentale, individuelle et collective du danger, en fait.
Donc penser le danger, travailler à la préparation des populations, comme les Japonais sont préparés au séisme ou les habitants de Los Angeles aussi au séisme, alors moins aux incendies, comme le disaient les invités hier, préparer les habitants des villes qui sont particulièrement exposées, d'abord parce que les villes, comme le rappelait Mathilde Grallepoix, sont tout simplement plus densément peuplées, mais aussi artificialisées, et l'eau ne peut plus s'écouler dans le sol.
Le modèle de développement de nos villes doit changer et prendre en compte le changement climatique. Les villes inondées sont en fait la zone dortoir de Valence. Les habitants prennent leur voiture pour chacun de leurs déplacements. Cette surface est entièrement asphaltée et donc imperméable. Et ça a eu un impact certain parce que l'eau ne peut pas pénétrer dans le sol.
Un architecte espagnol qui explique les raisons des dégâts matériels provoqués par les inondations dans la région de Valence. C'est l'extrait d'un reportage pour Arte. Cette artificialisation des terres, Mathilde Grallepoix, dans quelle mesure la construction de routes, de parkings, de bâtiments ont imperméabilisé les sols? Et est-ce que c'est parce que c'est le principe même de la bétonisation des terres que d'imperméabiliser le sol, ou c'est parce que ça a été mal fait?
De toute façon, aujourd'hui, on va disposer du système urbain tel qu'on le reçoit et tel qu'on l'étudie et tel qu'on souhaite le transformer. Donc, d'une certaine manière, l'artificialisation aujourd'hui, elle est là, elle est toujours en cours. Le débat qu'il y a en Europe et notamment en France aujourd'hui sur la limitation de l'artificialisation, il est extrêmement important. Il n'est pas tout à fait bien relié, je trouve, aux questions de prévention et de gestion des inondations. Notamment, et pourtant le débat est là, il est lancé et il serait important de le décaler aussi un petit peu à la question de la prévention des inondations. Parce que ce qu'on voit et ce qu'on entend dans cette intervention de l'architecte, c'est que c'est à la fois le système, l'infrastructure, l'artificialisation des sols, des centres urbains, l'ensemble des infrastructures qui relient le centre urbain à ses périphéries, mais c'est aussi le système d'interrelation entre les deux. Parce que, comme le dit très bien l'architecte, aujourd'hui, les périphéries ont aussi des dépendances vis-à-vis des centres urbains. Ce sont des espaces de logement, ce sont par ailleurs des espaces dans lesquels on peine à maintenir des services publics, on peine à maintenir une offre commerciale qui permettrait par exemple de limiter ces déplacements. Donc on par ailleurs, on demande à ces périphéries, qui ne sont pas juste un espace de localisation autour des centres urbains, mais qui ont quand même une forme de mise sous influence, notamment dans les déplacements domicile-travail ou dans même des formes de capital symbolique que peut avoir le centre-ville sur sa périphérie, eh bien quand même on demande des choses à ces périphéries aujourd'hui. On leur demande d'accueillir des espaces de déversoir pour que les crues puissent s'étendre. On leur demande d'accueillir des infrastructures, même en termes de prévention et de gestion des risques, sans parler des autres types d'infrastructures de traitement des déchets, de production énergétique, d'espaces de stockage, de logistique. Donc, en fait, tous les éléments un peu d'aléas climatiques qui vont arriver, ils vont aussi révéler, certes, l'artificialisation des sols sur lequel s'est développée l'Europe depuis, disons, la Seconde Guerre mondiale et les périodes de reconstruction, mais ça va aussi mettre en valeur les systèmes de solidarité ou le manque de solidarité, les inégalités sociales et spatiales qu'il peut y avoir entre le centre et ses périphéries. Donc, ça peut sembler un peu, sur l'établi, un gros travail à faire, mais on ne pourra pas travailler juste sur la partie matérielle de la ville. On ne pourra pas travailler juste sur la partie désartificialisation, entre guillemets, à petite échelle. On voit que là, c'est un système de solidarité territoriale à retravailler, parce que le risque, c'est de l'endommagement, c'est des pertes, c'est des dommages, c'est des vies humaines, comme le dit Freddy, et c'est un domaine qu'il connaît bien. Donc, c'est repenser un système de solidarité à l'aune d'une crise climatique qui comprendra les inondations, mais pas que, comme vous l'avez pu le voir déjà hier avec votre émission sur les feux.
Oui, sur les incendies à Los Angeles ou à Athènes. Ça peut se faire, donc vous dites, ça se décide plutôt à grande échelle, ça ne se fait pas à l'échelle d'un quartier. Alors il y a quand même des initiatives qui sont prises ici et là, et on parlera tout à l'heure en focus des villes éponges, et notamment à Berlin, de tout ce qui est entrepris pour faire en sorte que l'eau s'infiltre à nouveau dans les sols d'une certaine façon et surtout soit récupérée. Mais ça se fait, Mathilde Gralpois, de désartificialiser dans certaines villes d'Europe, et quand ça se fait, c'est selon quels critères et quels calculs?
Alors effectivement, tous les exemples qu'on a aujourd'hui de désartificialisation, c'est-à-dire par exemple de recréer des espaces publics qui sont désartificialisés, ou de maintenir des espaces de pleine terre là où il pourrait y avoir de l'urbanisation, de l'artificialisation, généralement c'est une logique d'ingénierie écologique, d'ingénierie hydraulique, qui vise à calculer le volume d'eau que l'espace ou que le bassin pourra recueillir. Et c'est vrai que là-dessus, c'est évidemment des dispositifs qui peuvent avoir leur importance, qui peuvent diminuer l'endommagement au moment de précipitations ou d'inondations. Mais ce sont aussi des espaces qu'on pose sur des territoires. Et à cet égard, on pose la question aussi des usages. C'est-à-dire que là, j'ai un exemple qui me vient en tête en Belgique, en Flandre, d'une commune qui s'appelle Berce, et qui recueille recrée un espace d'absorption de l'inondation dans un milieu urbanisé. Mais en fait, il y a tout un travail à faire aussi avec les habitants autour pour savoir comment cet espace va être utilisé, à quoi il va servir, qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire. On voit en France ou ailleurs des espaces enherbés qui sont clôturés, sur lesquels finalement on ne peut pas aller parce qu'ils ont un rôle hydraulique, mais il faut aussi les intégrer dans le paysage urbain. Et ce que disait aussi Freddy tout à l'heure, moi je trouve là qu'on manque aussi des occasions de discuter, et à l'échelle d'un quartier, je pense quand même que ça peut avoir du sens, de discuter de mais pourquoi ce bassin ? Et pourquoi on ne pourra pas y mettre des jeux pour enfants ? Et à quoi il sert ? Et pourquoi à certaines périodes on pourra y aller et à d'autres on ne pourra pas s'en approcher ? Et tous ces éléments qui parfois sont des éléments d'adaptation de la ville au changement climatique, que ce soit architecturalement avec de la surélévation ou des choses comme ça, il faut s'en servir comme des objets visuels qui permettent cette représentation en fait dont parlait Freddy juste avant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui peut amener du coup à de la maladaptation, c'est-à-dire à ne pas correctement utiliser ou à sous-utiliser, voire à dégrader ces espaces-là.
C'est pour ça qu'en Angleterre, par exemple, les communautés riveraines sont partie prenante quand il s'agit de décider d'artificialiser ou non un parc, de construire un bassin de rétention. Vous avez travaillé sur ces exemples-là, Mathilde Gralpois. Freddy Vinet, il me semble que quand la ville s'est étendue, 19e et surtout 20e siècle, on a dû parfois, pour gagner de la place, pour construire ici un parking, là une place de... Enfin, laisser les voitures circuler. On a contraint beaucoup aussi les cours d'eau, on les a chenalisés, donc pour les rendre plus rectilignes. Qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui peut être entrepris en matière de sur les cours d'eau directement pour faire en sorte que plus jamais, en tout cas le moins possible, n'advienne ce qui s'est passé dans tous les exemples que vous avez cités, c'est-à-dire des cours d'eau qui vraiment sont contraints et débordent.
Alors, sans remonter aux origines de l'urbanisation, le phénomène urbain est un phénomène ancien. Hein. Rome avait 1 million d'habitants à la grande époque de l'Empire romain. Donc, il y avait 1 million d'habitants. Mais l'urbanisation, elle commence surtout en Europe occidentale au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, on commence à enserrer les cours d'eau dans les villes, pour plusieurs raisons, pour favoriser la circulation des trains, pour ensuite de l'automobile, pour aussi refermer les cours d'eau, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'égouts, donc ce sont les cours d'eau qui sont des égouts. Donc à Montpellier, par exemple, on avait un cours d'eau qui s'appelait le Merdançon, parce que c'était un véritable égout, donc il a été couvert. Donc on a contraint les cours d'eau, et ces cours d'eau, et c'est ce qui s'est passé à Valence pour la plupart, ces cours d'eau, ils n'ont plus la capacité d'évacuation des eaux qu'ils devraient avoir pour évacuer les débits énormes qui surviennent lorsqu'il y a des fortes précipitations. Donc, c'est ce qu'on a vu à Valence, c'est ce qu'on a vu à Nîmes en 1988, et c'est ce qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire que ce sont les inondations périurbaines, c'est-à-dire que l'inondation, le flux, se constitue à l'extérieur de la ville et il arrive dans une ville, dans un organisme urbain qui n'a pas les capacités d'évacuation. Donc évidemment, l'eau, il faut qu'elle passe. Et si elle ne peut plus passer dans les petits souterrains qui ont remplacé les cours d'eau, eh bien, elle circule dans les rues. Hein. C'est ce qu'on a vu dans les images de Paiporta, de Torrent, etc. L'eau coulait dans les rues parce que les vrais cours d'eau sont dessous et ils ne sont pas suffisants, et où la plupart du temps ils sont bouchés d'ailleurs.
Et c'était ce qui s'était passé aussi en Belgique, dans la commune de Pepinster, lors des grandes inondations de 2021.
On va tout mettre par terre et on va en profiter pour rabaisser les niveaux des berges, renaturer les berges pour permettre à l'eau de prendre sa place le jour où nous aurons de nouvelles inondations. Et en fait, casser le nœud, le bouchon que nous avions à la confluence entre la Vesdre et la Ogne. Donc on a vraiment la volonté d'avancer le plus vite possible.
Alors, c'est le maire de Pepinster en Belgique, interrogé par Boris Allier de France Info en février dernier, enfin il y a un an. On connaît bien ici, les élus français connaissent bien, Mathilde Gralpois, toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui à répondre à la fois à des normes très contraignantes et en même temps pour la protection de leurs administrés, ce qui évidemment tombe sous le sens. Ils expliquent, les élus français, combien par exemple entretenir les berges d'une rivière, c'est devenu ultra difficile avec les normes énorme. Or, s'ils ne le font pas, ils vont créer des embâcles, donc des inondations, et être tenus pour responsables éventuellement si l'eau déborde. Donc, un élu français, par exemple, me racontait un jour que s'il devait nettoyer les berges, il devait imiter la découpe des arbres du castor par nuit de pleine lune pour pas être embêté, qu'il était devenu spécialiste de la taille de l'arbre à la lime à ongles, parce que vraiment, il fallait surtout pas qu'on voit que c'était lui qui avait entretenu les berges. Aujourd'hui, comment les élus peuvent agir, que ce soit en France et dans tous les pays, encore une fois, que vous avez étudié, pour faire en sorte que ces cours d'eau soient les plus dégagés possibles de tous ces embâcles qui peuvent créer des inondations?
Bien, déjà, moi, j'aurais envie de dire à ces élus que le temps est un peu révolu où on pouvait disjoindre les questions de prévention des risques avec tous les domaines qui relèvent notamment voilà de l'ingénierie hydraulique, de la modélisation, mais aussi, comme on l'a vu, de la gestion de crise, de l'alerte, que toute cette question de la prévention des risques, elle peut plus être disjointe de la question qu'on pourrait mettre sous le chapeau de dire transition climatique ou transition écologique et sociale, dérèglement climatique. En ce sens que ça peut même, d'un certain point de vue, donner une forme de cohérence réglementaire, d'objectif politique à des enjeux, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, la renaturation, par exemple, d'espaces de berges, comme vous donnez l'exemple, eh bien, ce sont aussi des espaces de biodiversité, de réduction potentiellement d'îlots de chaleur, tout dépend de d'où est-ce qu'on se situe, mais en tout cas qu'il y a des aspects co-bénéfiques qui peuvent être assez facilement trouvés en matière de renaturation, et ça concerne notamment la question de la prévention des risques. Mais oui, nous habitons un peu effectivement la même terre que tout un tas d'êtres dans les écosystèmes, et là aussi je pense qu'on a en matière de risques des choses à apprendre de ce que les réflexions sur l'humain, le non-humain, le fait que nous participons quand même tous, et nous sommes tous liés à cette grande période de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Donc, pour moi, ça a du sens, en fait, finalement, quand même, de se dire qu'on va regarder ce qui vit autour d'un espace. Alors, évidemment, les habitants humains, mais potentiellement aussi les habitants non-humains, parce que ça n'aurait pas de sens que de faire de la renaturation sur le bord d'un cours d'eau ou dans un espace boisé à proximité d'un cours d'eau, sans tenir compte de ce qui vit aussi en plus de l'homme potentiellement qui cherche à se protéger.
Et mais pour être juste ramené à quelque chose de très pragmatique, parce que vous avez l'un et l'autre parlé aussi des problèmes d'évacuation des eaux dans les systèmes d'évacuation, au-delà même de la question de débord des cours d'eau, etc. Est-ce qu'il suffit par exemple d'agrandir les tuyaux, les canalisations, tout simplement, pour que les villes aussi soient moins exposées à ces inondations?
Moi, de mon point de vue, il y a toujours des améliorations techniques qui peuvent être réalisées. À plusieurs égards, notamment sur des espaces littoraux, on voit qu'il y a des communes relativement petites, voire rurales, qui disposent pas de réseaux qui séparent les eaux de pluie des eaux de ménage. Donc oui, peut-être que ça a un sens en termes de gestion des eaux pluviales que de par exemple reséparer des réseaux pour pouvoir limiter et gérer plus efficacement les eaux de pluie. Sûrement que ça a du sens aussi de réfléchir à l'absorption des eaux de pluie à la parcelle. Donc là, aujourd'hui, on a quand même là-dessus des exemples, des règles qui nous expliquent que dans un plan local d'urbanisme, eh bien, il faut intégrer l'absorption à la parcelle de pluie qui peuvent être même des pluies centennales. Donc le réseau, l'infrastructure technique, j'ai tendance à considérer qu'à partir du moment où il est là, mieux vaut qu'il serve dans les meilleures conditions. Mais par contre, la quête qui serait de dire il faut aller déterrer les réseaux, les redimensionner, quel diamètre, tout ça face à quel scénario aussi de précipitation à venir, c'est bien difficile de le savoir. On le voit dans le cas de Valence, comme le disait très bien Frédic aussi, il n'y a pas que de l'eau au moment de crue dans ces réseaux. Voilà, il y a de la boue, il y a des déchets qui y rentrent. Donc finalement, la réponse ne passera pas que par le redimensionnement des réseaux. C'est malgré tout une réflexion aussi plus large, moins pragmatique certainement, mais en tout cas, qui peut pas être que la réponse par les réseaux techniques.
Avec aussi pour Valence la difficulté à se projeter, puisque là, on parle d'une crue qui a eu lieu en octobre, je crois. C'était des crues qui se produisent tous les 50 ou 150 ans, et les travaux sont faits pour un certain niveau de risque, pour une certaine période. C'est toujours difficile d'anticiper, mais un tout petit mot pour conclure cette première partie, Freddy Vinet, sur peut-être repenser les matériaux des maisons. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut non pas sauver la planète, mais au moins faire en sorte que les habitants soient moins exposés lors de ces pluies?
Oui, oui. Alors les solutions, de toute façon, elles sont diverses. On ne peut pas travailler uniquement sur ce qu'on appelle l'aléa, c'est-à-dire sur l'eau. Il faut travailler aussi sur les enjeux, c'est-à-dire les habitations. Moi, quand je vois, par exemple, qu'à Redon, où les gens ont déjà été inondés par le passé, en 95, etc., on voit qu'il y a des maisons qui ont des parquets, des maisons qui sont en bois, qui ont ou éventuellement de la moquette ou etc. Et donc ça aussi il faut adapter. C'est ce qu'on appelle la réduction de vulnérabilité, c'est-à-dire par exemple, moi je connais autour de Montpellier un café dans une zone très inondable. Ils sont souvent inondés. Le café, il est en carrelage, les murs sont faïencés. Les gestionnaires du café, ils nettoient avec le jet d'eau et trois jours après ils reprennent. Les prises sont en hauteur. Donc la maison est adaptée à l'inondation. Et en trois jours, ils peuvent reprendre. Mais si vous avez des maisons avec du parquet, avec du placo-plâtre dans les murs, avec des prises électriques trop basses, etc., bah, votre maison, vous ne pouvez pas reprendre une activité dans votre maison avant 3, 4 mois, 5 mois. Les artisans ne sont pas disponibles, le matériel n'est pas disponible. Donc il y a aussi un gros travail à faire sur ce qu'on appelle le build back better, c'est-à-dire la reconstruction adaptée.
Une reconstruction adaptée pour penser et organiser les villes avec la possibilité de l'inondation et non plus avec l'illusion de s'en prémunir totalement. Je reprends vos mots, Mathilde Gralpois.
Si es que se dio, yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionero.
La chanteuse española Rosalía et sa chanson La Fama avec le groupe The Weeknd. Cette chanteuse espagnole Rosalía s'est rendue dans la région de Valence en novembre pour apporter son aide aux victimes des inondations. En Europe, la périphérie urbaine inondée, c'est le deuxième épisode de notre série sur les villes face aux catastrophes climatiques. Avec nos invités Freddy Vinet et Mathilde Gralpois, nous évoquons les inondations à Redoux en Ille-et-Vilaine, mais aussi à Valence en octobre ou dans l'Est de l'Europe en septembre avec la dépression Boris. Certaines villes tentent de trouver des solutions pour être en mesure d'absorber le surplus d'eau. Berlin, par exemple, se pense en ville éponge.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Des canalisations surchargées quand il pleut beaucoup et le reste de l'année une sécheresse dont pâtit toute la végétation. Berlin s'est fixé pour objectif de se transformer à 30% en ville éponge, un concept forgé par l'architecte urbaniste allemand Carlo Becker qui combine désartificialisation des sols et collecte des eaux de pluie.
Quand il pleut, l'eau est récupérée sur les toits et elle s'écoule par les conduites dans les bassins autour de nous. Le premier fait 40 cm de profondeur, le deuxième 85 cm et le dernier 1,35 m. Ils contiennent 3 millions de litres. Il n'y a que des avantages. Non seulement on peut éviter les inondations, mais l'évaporation de l'eau rafraîchit aussi le quartier.
Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Julie, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le correspondant de Radio France à Berlin. On vient d'entendre un extrait de l'un de vos reportages dans le quartier de Grünau au sud-est de la ville. Outre ces bassins, comment Sébastien Baer, comment vous voyez peu à peu Berlin se transformer en ville éponge?
Ah, ça prend différentes formes Julie, ça peut être par exemple une citerne souterraine qui peut recueillir 300 000 mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent d'un bassin dont les côtés feraient 67 mètres. Ça peut être aussi un trottoir légèrement incliné qui va permettre à l'eau de guider l'eau là où on le souhaite, et puis encore des oasis de verdure sous la forme par exemple de toits ou de façades qui sont recouverts de végétation. Le développement de ce concept de ville éponge, en fait, il correspond à un changement complet dans l'approche de la gestion de l'eau ici à Berlin. Avant, quand il pleuvait, l'objectif c'était toujours d'évacuer cette eau le plus vite possible via les égouts, via les canalisations, et désormais il y a eu un changement de cap ces dernières années. On ne considère plus les eaux de pluie comme un problème mais véritablement comme une ressource. L'idée, c'est de conserver cette eau. Plus aucune goutte, si je résume, ne doit être gaspillée. On stocke les eaux de pluie là où elles tombent pour pouvoir ensuite les réutiliser. Ça permet deux choses. On absorbe les fortes précipitations dont vous parlez et puis on résiste mieux aussi aux vagues de chaleur.
Et on les réutilise où d'ailleurs? Cette eau recueillie, elle est envoyée où? En station d'épuration?
Cette eau, elle est recueillie ensuite pour servir. Elle est, une part est évaporée, l'autre partie qui est recueillie sert à alimenter les nappes phréatiques qui sont souvent à sec ces derniers temps dans le sous-sol de Berlin, puisque vous en parliez, il y a des épisodes à la fois de fortes inondations dans la capitale allemande, mais il y a aussi des épisodes de grosses sécheresses. C'est un des plus gros problèmes que connaît la capitale, le manque d'eau depuis plusieurs années. Berlin est pourtant construite sur d'anciens marais et c'est pourtant l'un des endroits les plus secs d'Allemagne, avec plusieurs étés consécutifs de sécheresse ces dernières années. D'ailleurs, les experts disent que les nappes phréatiques n'ont toujours pas retrouvé leur niveau normal. Et puis, la situation a été si catastrophique il y a quelques étés que les autorités ont demandé aux habitants d'arroser les arbres de la ville pour les sauver. Le besoin d'irrigation, il est donc permanent, très important. Sinon, les arbres, la végétation s'affaiblit, elle meurt. Les arbres sont plus facilement déracinés quand il y a des vents forts ou des tempêtes. Les ingénieurs et les urbanistes de la capitale se sont alors demandé comment mieux gérer ces épisodes à la fois parfois de fortes pluies et puis ces épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux qui assèchent les nappes phréatiques. C'est ainsi que s'est développé ce concept de ville éponge.
Collecter l'eau d'ailleurs, tous les habitants de Berlin qui vont dans ces quartiers même le week-end disent qu'il fait plus frais l'été dans ces quartiers où l'eau est collectée dans des grands bassins. Ça soulage aussi le système d'égouts qui est vieux de 150 ans, qui est plus capable de gérer les eaux usées et les eaux de pluie en même temps. Quand il y a de très fortes pluies, elles se mélangent et débordent jusque dans le fleuve Lachepré, un peu comme dans la Seine, d'où la présence de la bactérie E. coli juste avant les Jeux Olympiques. Alors Sébastien Baer, collecter l'eau c'est une chose, mais il s'agit aussi de la laisser de nouveau s'infiltrer dans le sol. Ici et là, on enlève des petits morceaux de béton pour faire en sorte que l'eau s'écoule.
Oui, c'est pas toujours simple, hein, parce que autant dans les nouveaux quartiers, il est possible d'adapter la construction de ces nouveaux quartiers. Il y a une loi d'ailleurs depuis 2018 qui impose à tout nouveau bâtiment qui est construit de mettre en place des mesures pour collecter et récupérer ces eaux de pluie. On stocke et on utilise l'eau là où elle tombe, à tous les étages de la ville, si je puis dire, le toit, la rue et puis aussi les parkings souterrains, ce qui fait que depuis cette loi de 2018, des quartiers entiers de la capitale ont été dessinés, ont été construits de façon à capter la moindre goutte de pluie pour pouvoir ensuite la réutiliser. Il y a un exemple assez emblématique à Berlin, c'est la Gendarmenmarkt. Je ne sais pas si vous connaissez cette place, c'est une des plus belles, des plus emblématiques places de la capitale. Vous avez dessus la Schauspielhaus, vous avez les églises françaises et allemandes qui se font face. C'est une place de 14 000 mètres carrés qui a été en rénovation récemment. Eh bien, on a profité de ces travaux de rénovation pour pouvoir installer des nouveaux pavés qui laissent passer l'eau. Et sous ce pavage, on a installé des conduites souterraines sur plusieurs centaines de mètres carrés, plusieurs même milliers de mètres carrés. Et ces conduites, elles permettent de canaliser l'eau et de l'orienter là où on le souhaite, là en l'occurrence vers les arbres, vers la nappe phréatique. Mais il y a aussi un vrai défi. Là, je vous parlais des quartiers en rénovation ou des quartiers nouvellement construits, sortis de terre depuis 2018, depuis la nouvelle loi.
Il y a tous les vieux quartiers.
C'est ça, ce sont les quartiers historiques, les quartiers plus anciens qui sont nombreux en centre-ville. Comment les transformer en ville éponge quand ils n'ont pas du tout été conçus dans cette perspective? Alors là, il faut trouver de la place, ou plutôt faire de la place, retirer par exemple des places de parking, aménager un peu d'espace entre les pavés pour permettre à l'eau de s'infiltrer. C'est vraiment un défi. Le mot n'est pas trop fort parce qu'il faut bousculer aussi, entre guillemets, le moins possible la vie du quartier, la vie des riverains. 2, 3, 4 places de stationnement supprimées, et les habitants sont parfois mécontents. Alors la ville, elle essaye aussi d'inciter les habitants à participer au dispositif, de les faire, de leur demander de contribuer à participer à ce dispositif, parce que même les petits projets, c'est ce qu'on dit du côté de l'agence de l'eau à Berlin, même les petits projets sont importants pour bâtir la ville éponge. Alors ça passe par exemple par l'installation de récupérateurs d'eau, par l'installation d'un toit végétal, et en contrepartie, eh bien les ménages sont exonérés de la taxe pour la gestion et l'évacuation des eaux de pluie. Alors, un mot quand même, Julie, pour vous dire qu'il faudra du temps, beaucoup de temps, pour que Berlin devienne véritablement une ville éponge. Ça sera d'ailleurs probablement jamais le cas, parce que le coût des travaux, la densité de la ville, les normes aussi, parce que vous savez que l'Allemagne est réputée pour sa lourde bureaucratie, ça n'est pas simplement une légende. Tout ça rend impossible la métamorphose complète de la ville en ville éponge, mais la capitale s'est tout de même fixé un objectif sur 20 ans. 20 ans pour transformer 30% de sa surface en ville éponge. Ça veut dire que chaque année, en moyenne, Berlin va transformer 1% à 1,5% de sa surface.
20 ans de travail pour l'Agence berlinoise des eaux de pluie. J'ai trouvé ça très joli, vous en parlez dans votre reportage. Merci beaucoup Sébastien Baer, correspondant de Radio France à Berlin, d'avoir été avec nous. Un mot peut-être de réaction, Mathilde Gralbois, parce que Sébastien Baer, on n'en a pas parlé, mais a rencontré par ailleurs Carlos Becker, qui est un Allemand qui a déposé la marque de ville éponge en 2015, mais beaucoup s'en disputent la paternité. En Chine, par exemple, on dit que ça fait très longtemps qu'on réfléchit à ces questions, etc. Est-ce que ce qui est en train de se passer à Berlin peut se dupliquer partout ?
Je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives similaires qui sont en cours. Oui, alors après, moi, je me rappelle d'un cas effectivement en Angleterre, sur la Tamise, la basse partie de la Tamise, une commune où l'espace inondable concernait environ 11 000 habitants. C'était la commune de Slough, et qui revendiquait aussi et qui avait d'ailleurs eu des financements pour cela, pour mettre en place ce concept de ville éponge. Et finalement, les dispositifs cité le journaliste, on les retrouve et on peut les mettre en œuvre dans la plupart, en tout cas, des cas en France et de pays européens, pas aussi par ailleurs. En fait, il a parlé de bassins de rétention, donc d'avoir une gestion avec du stockage. Il a parlé de désartificialisation, donc d'avoir cette logique d'absorption des eaux de pluie à la parcelle. On en a parlé pendant l'émission. Et cette idée que l'eau est une ressource, je pense qu'il y a les moyens réglementaires, par exemple en France aujourd'hui, hein, pour pouvoir faire cette gestion des eaux à la parcelle. Ce qui est très intéressant, c'est que même si ça semble un petit pas, à un moment donné, c'est le croisement aussi entre des expertises professionnelles qui doivent se parler pour demain, que ce soit l'ingénierie, les travaux publics, le monde de l'architecture. On avait entendu parler notamment d'idée que voilà, qu'il fallait arrêter de récolter l'eau de pluie.
Oui, et donc c'est une idée sur laquelle on revient. C'est ça que vous vouliez dire, Mathilde Gralbois. Pas de contresens. C'est bon, on peut.
Non, enfin, en fait, l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est l'évacuer l'eau de pluie, surtout dans les contextes d'inondation dont on a parlé, ça va avoir ses limites.
Merci.
L'idée c'est
beaucoup
de l'absorber un maximum là où elle tombe.
Je vous remercie Mathilde Gralpois et Freddy Vinet d'avoir été avec nous tous les deux respectivement en duplex depuis ici Tours et ici Hérault, et je remercie beaucoup Patrick Gauquelin et Mathis Ollier de vous avoir reçu. Il est l'heure d'écouter la revue de presse internationale de Catherine Dutu.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Avec un fil rouge ce matin, Catherine, scolariser les enfants dans de bonnes conditions. En Indonésie, tout d'abord, les initiatives se multiplient pour nourrir les élèves.
avec un double objectif. Inciter les familles pauvres à envoyer leurs enfants à l'école et lutter contre les retards de croissance dus à la malnutrition. Des retards qui touchent un enfant sur cinq dans le vaste archipel de quelques 282 millions d'habitants, comme l'explique le journal indonésien Tempo, le South China Morning Post et Al Jazeera. Mais d'autres médias, comme le Time Magazine, s'interrogent sur la viabilité financière de ces projets à long terme. Le gouverneur élu de Jakarta, l'opposant Pramono Anung, doit prendre ses fonctions ce vendredi 7 février. Il va lancer un programme de petit-déjeuner gratuit pour les écoliers de la capitale indonésienne, rapporte le Jakarta Post, en vérifiant, ajoute l'hebdomadaire Tempo, que les cantines scolaires qui prépareront ces repas répondent bien aux normes sanitaires. Et c'est une attaque à peine voilée contre le président indonésien Prabowo Subianto, qui a lancé le mois dernier un ambitieux programme de repas gratuits, des déjeuners cette fois. Et c'est une première mondiale à l'échelle d'un pays, note Al Jazeera. Près de 600 000 déjeuners distribués rien que le premier jour, indique le Guardian. Mais des cas d'intoxication alimentaire sont venus entacher ces débuts très médiatisés, explique CNN Indonesia et le Guardian. Nausées, vomissements, une quarantaine d'écoliers dans le centre de Java ont consommé du poulet avarié. D'autres ont aussi été malades sur l'île de Bornéo, ajoute le quotidien indonésien Kompas, après avoir mangé donc ces repas gratuits. C'était une promesse électorale clé du président Prabowo Subianto, rappelle le Time Magazine, pour faire grandir la génération de l'âge d'or de l'Indonésie. Le gouvernement, l'armée, des entreprises locales ont aidé à distribuer des plateaux en inox, raconte Al Jazeera, dans lesquels se trouvaient du riz, du poulet frit, du tofu, des haricots et une orange. L'Indonésie a même importé des vaches laitières d'Australie pour augmenter sa production et distribuer du lait aux écoliers. Les repas les plus équilibrés possibles, alors qu'habituellement, explique ABC Australia, certaines familles modestes ne peuvent acheter que des nouilles instantanées ou du bouillon de poulet. Les élèves sont très heureux, explique Eri Pranata, un enseignant indonésien interrogé par l'agence Reuters et cité par The Indian Express. Les élèves aiment ce genre de nourriture qu'on leur sert, comme le poulet, mais certains écoliers, dit-il encore, n'ont pas l'habitude de manger des fruits. Le nombre de bénéficiaires de ces repas gratuits devrait grimper à 3 millions d'ici mars, 83 millions d'élèves indonésiens, mais aussi des femmes enceintes à l'horizon 2029 seront également concernées, indique le Jakarta Post, coût estimé à 45 milliards de dollars sur 5 ans. Or, souligne le South China Morning Post, il faut aussi de l'argent pour assurer une éducation de qualité, un solide système de santé. Bref, tout est une question d'équilibre alimentaire et budgétaire.
Direction le Honduras, Catherine, qui lutte contre l'échec scolaire.
Alors que 47 000 élèves ont abandonné leurs études l'an dernier, explique le quotidien hondurien El Heraldo, soit une hausse de 2% par rapport à l'année précédente, dans l'ouest du Honduras, au milieu des montagnes et des plantations de café, des enfants arrivent à travailler l'espagnol, les maths avec des grains de café, raconte El País América. Des professeurs sont allés les chercher parfois directement dans les plantations, des enseignants locaux qui ont réussi à convaincre des familles d'envoyer leurs enfants à l'école, même quelques heures, pour apprendre à lire. Red Solidaria, un programme de lutte contre la pauvreté du gouvernement du Honduras, porte donc ses fruits, explique El País. Dans le département de Copan, à l'extrême ouest du Honduras, Carmen, à 10 ans, a enfin appris à lire, alors qu'elle avait fondu en larmes lors d'un examen quelques mois plus tôt, incapable de lire les instructions du test qui lui avait été donné. Grâce à ses tuteurs dans des terres reculées du Honduras, que ce soit sous des abris communautaires ou avec des cours par téléphone, les enfants apprennent à reprendre confiance en eux. Les professeurs sont deux super-héros, estime El País América.
Enfin, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, des écoles résistent à la chaleur extrême.
En combinant, explique encore El País América, des matériaux traditionnels et des techniques innovantes d'isolation, de ventilation qui arrivent à rafraîchir les salles de classe de ce pays du Sahel, attirant donc davantage d'élèves en classe et les gardant même attentifs plus longtemps, explique El País. Exemple à Koudougou, dans le centre du Burkina, la troisième ville du pays, il y a beaucoup de fenêtres dans une école, donc on n'a pas chaud, explique Ariel Bassolé, un élève de 11 ans qui est revenu juste après la pause déjeuner à l'ombre d'un arbre. L'école où il va a été conçue par l'architecte David Demange de l'ONG Le Soleil dans la Main, explique El País América. Il cherche à s'adapter aux défis climatiques du Sahel en s'inspirant notamment du lauréat du prix Pritzker 2022, le Burkinabé Francis Kéré. Et lorsqu'il lève les yeux, le petit écolier Ariel voit des arches traditionnelles en briques de terre et au-dessus d'elles, une structure en fer qui soutient une plaque métallique. Elle protège les briques de la pluie. Elle s'étend au-delà des murs du bâtiment pour créer de l'ombre. Cette assiette est recouverte de paille tressée, dite séco, que l'ethnie Peul utilise pour ses cases. Rappelons que le Mali et le Burkina Faso sont les deux pays du Sahel qui ont le plus souffert de la canicule historique du printemps dernier.
Merci beaucoup Catherine Dutu.